les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Au plus haut des sommets, ou beaucoup plus bas, au niveau de la mer, ou dans la forêt équatoriale, et même sur la Lune, on savait voyager et faire voyager les auditeurs en 1950. On évoquait les aventuriers, les boucaniers de l'Amérique. On dansait à Rio, on suivait de très près des matchs de boxe, on jouait du piano à pouce. C'est la Napurna qui ouvrait le bal, et c'est en compagnie de flibustiers que s'achevait cette évocation de voyage. Nous étions le 21 octobre 1950 sur la chaîne parisienne et l'émission, semble-t-il, avait été diffusée quelques jours plus tôt sur la chaîne tunisienne.
Les reportages de la radiodiffusion française présentent Journal des voyages.
Pierre Desgros
et Pierre Ichac
vous invitent à les suivre à la faveur de ce premier numéro du Journal des voyages
à la conquête de l'Annapurna avec Maurice Herzog,
à la découverte de Rio de Janeiro avec Samy Simon,
dans la Lune avec Cyrano de Bergerac et Alexandre Ananoff,
dans la forêt équatoriale avec les pianos de poche de l'Afrique centrale française,
et au XVIIe siècle chez les aventuriers, les boucaniers et les flibustiers d'Amérique avec Alexandre Olivier Exmelin.
Texte lu par André Var.
Collaboration artistique, Jean Chouquet et Denise Glaser.
Eh bien, si vous le voulez, faisons avant toute chose les présentations. Puisque nous voici pour 10 semaines en tête à tête avec vous, amis tunisiens, nous vous devons bien quelques mots de préface. Et d'abord, pourquoi Journal des voyages ?
Eh bien, c'est là pour nous tous un très vieux titre, familier, évocateur de rêves et d'aventures, et qui a été, avouons-le, presque inséparable des émerveillements de notre enfance. Qui de nous n'abrite pas encore aujourd'hui au plus profond de lui-même un navigateur ou un explorateur qui sommeille ? Et la grande vogue dont jouissent aujourd'hui les récits et les films de voyage n'est pas loin de nous en donner la preuve. Jacques Cartier, Ibn Battuta et Christophe Colomb, La Pérouse et Bougainville, René Caillé, Livingstone, Brazza, tous ces hommes dont les gestes, nous devrions dire dont la geste, dont l'épopée, semble se déployer sur autant de mondes inaccessibles ou disparus sous l'accumulation des siècles, sont-ils à jamais irretrouvables ? Eh bien, nous avons pensé, au contraire, qu'il était possible de les rechercher, même au fin fond de quelques vieux livres oubliés, et de les ramener près de nous, tout chaud, tout vivant, avec ce que parfois les plus anciens pouvaient laisser voir de naïveté, de gaucherie, d'étonnement, aujourd'hui bien dépassé, devant des civilisations inconnues qui étaient trop différentes de la leur. Ce n'est pas l'un des moindres charmes des vieux livres.
Cependant, au début de notre siècle, d'autres générations de voyageurs se sont levées, qui ont accompli sous nos yeux, cette fois, les mêmes gestes et poursuivi la même épopée, toujours nouvelle et heureusement toujours inachevée. Leur nom, ce n'est plus dans les livres que vous faites leur connaissance. Ils hantent les journaux que vous lisez tous les jours. La radio vous parle d'eux avec la même absence d'étonnement qu'elle apporte à vous fournir les éléments des discussions sur le prix du blé ou bien la liste des membres du nouveau ministère. Ils s'appellent par exemple Charcot, Teilhard de Chardin, Paul-Émile Victor, Bertrand Flournoy, Marcel Griol et, tout près de nous, Maurice Herzog.
Eh bien, votre journal des voyages essaiera chaque semaine, sous les formes les plus variées, de recréer la continuité qui va d'un de ces hommes à chacun des autres, malgré tout, malgré les distances, malgré le temps même. Grâce aux documents que les plus anciens nous ont laissés, vous les entendrez parler. Vous entendrez, par exemple, le récit de l'extraordinaire voyage qu'accomplit en Extrême-Orient au XIVe siècle le bon moine italien Odoric de Pordenone, comme vous allez entendre dans quelques instants Maurice Herzog, l'alpiniste français qui, il y a tout juste un an, planta le drapeau français sur le plus haut sommet du monde conquis jusqu'ici par les hommes.
Voici donc ce récit, tel qu'il a été enregistré sur le lit de clinique, où, un an après sa victoire, Maurice Herzog en paie encore aujourd'hui le prix. Nous sommes le 3 juin 1950, il est 6 heures du matin. Maurice Herzog et ses compagnons, après des semaines d'ascension, s'apprêtent à franchir les derniers obstacles qui les séparent du sommet. Maurice Herzog parle.
Eh bien, il est 6 heures du matin, il fait un temps radieux. Nous sommes très fatigués par une nuit vraiment harassante, puisque nous étions ensevelis sous la neige, le vent a cessé de souffler, sans préparer même quelque chose de chaud, car c'était absolument impossible de faire chauffer. On avait perdu la moitié des affaires. Nous sommes partis directement en direction du sommet, tous les deux, sans même s'encorder, car le terrain était absolument égal et ne présentait pas de difficultés techniques particulières. Nous sommes partis tous les deux, à bonne allure, et nous pensions arriver très tôt au sommet. Seulement, la distance était très très grande, et le temps, nous n'avions guère conscience du temps, il s'écoulait beaucoup plus lentement que nous le voulions, si bien que ce n'est seulement qu'à 2 heures de l'après-midi que nous avons atteint le sommet, après avoir monté un couloir très pentu, comme on dit dans le langage montagnard. Nous sommes arrivés tous les deux en même temps, la Schnall et moi, au sommet, et ce fut une grande joie pour tous les deux que d'arriver pour un sommet de plus de 8000, ce qui était la première fois dans l'histoire alpine.
Bien, et vous êtes parti à 6 heures du matin du camp 5. Il était à peu près quelle heure lorsque vous avez gravi pour la première fois le sommet de l'Annapurna?
Il était 14 heures, c'est-à-dire 2 heures de l'après-midi.
Est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez un état de... Vous étiez fatigué d'une façon extraordinaire? Est-ce que l'altitude, est-ce que la fatigue avait amoindri votre résistance physique? Est-ce que vous avez pleinement savouré la joie que vous aviez de conquérir pour la première fois dans l'histoire de la montagne un sommet de plus de 8000 mètres?
Non, nous étions extrêmement lucides. Nous avions monté à une vitesse relativement normale, celle qui correspond à celle des touristes qui montent le Mont Blanc dans la région de Chamonix. Nous avons atteint le sommet en somme sans grande peine. Au sommet, nous étions même si lucides que nous avons pris des photos. Nous avons pris en particulier le drapeau français, bien entendu. Nous avons changé de pellicule, nous avons mis au point, ce qui montre bien que ces opérations se sont montées. Témoignait donc une certaine utilité.
Il faisait très beau au sommet de l'Annapurna, si j'en crois toujours les photos qu'a pris Lachenal, les photos où vous êtes représenté, ou bien Lachenal est un très bon photographe, c'est plutôt ça. Oui. Il ne faisait pas très beau, quelle température?
Non, il ne faisait pas très beau, il faisait pas très froid non plus, mais le temps n'était vraiment pas fameux. Et je dois dire que nous avions hâte de repartir vers le camp 5. Au point de vue esthétique, si notre joie était très grande d'arriver au sommet, car enfin c'était l'aboutissement de toutes nos peines, de tous nos efforts, eh bien, notre joie esthétique, pour cela nous avons été très volés parce que nous n'avons rien vu du tout. Nous avons juste vu filer une arête vers le sud, c'est tout ce que nous avons vu du sommet.
Et vous avez senti que le mauvais temps s'accumulait sur les sommets et qu'il serait prudent de descendre le plus rapidement possible. Vous avez senti à ce moment-là que le mauvais temps venait sur les sommets de l'Himalaya. Vous êtes resté combien de temps au sommet, Maurice Herzog?
Nous sommes restés au sommet 10 minutes, un quart d'heure. Il y avait un vent d'ouest très puissant qui s'est élevé, des nuages noirs s'amoncelaient. La radio nous annonçait peu avant que la mousson s'approchait de Calcutta, avait même passé Calcutta, qu'elle abordait les premières collines de l'Himalaya. Et avec mon camarade Lachenal, nous pensions que c'était déjà les premières attaques de la mousson. Nous n'avions donc qu'un désir, c'est de redescendre immédiatement au camp 5 et si possible au camp 4.
Maurice Herzog, admettons une chose pénible, mais basons-nous un peu sur l'expérience de Mallory, admettons que Lachenal et vous ayez disparu au sommet de l'Annapurna et ne soyez pas redescendus au camp 5. Est-ce que les hommes qui arrivaient en ce moment au camp 5 avaient pour mission d'essayer de gravir l'Annapurna tout en faisant des recherches pour trouver votre trace?
Certainement, je crois que leur première mission dans ces cas-là, c'était de nous rechercher. Avant même d'attaquer le sommet. D'ailleurs, ils nous attendaient avec anxiété, car c'est à une heure assez tardive que nous avons atteint le camp 5. Et lorsque je suis arrivé au camp 5, mon camarade Thierry m'a reçu et a voulu me dire bonjour, et il a vu mes doigts qui étaient complètement gelés, et a eu une expression telle que j'ai senti que c'était quelque chose de grave. J'ai regardé mes doigts, et j'ai vu effectivement qu'ils étaient tout blancs violacés, J'ai compris à ce moment-là que mes mains étaient gelées.
Et vous ne vous étiez pas rendu compte avant que vos doigts étaient gelés?
Non. Au cours de la descente, je tenais mon piolet et qui tenait probablement tout seul au bout de ma main. Et je ne m'en suis pas aperçu. C'est lui-même qui m'a fait apercevoir cette chose.
Bon, le docteur Rudeau était à quel camp?
Alors, le docteur Rudeau était bien plus bas. Il était au camp 2, à 6000 mètres, au lieu de 7005. Et la descente, le lendemain, a été extrêmement pénible. Si vous voulez, je veux vous la raconter. En bref, voici ce qui s'est passé. Le lendemain matin, après une nuit extrêmement pénible, analogue à celle que nous avions subie avec mon camarade Lachenal la première fois, nous sommes redescendus de très bonne heure, alors cette fois-ci à 4. Mais il faisait une tourmente effroyable. Le vent soufflait, la neige tombait, le brouillard nous cachait toutes les crevasses, nous cachait tous les obstacles. Et nous désirions descendre le plus tôt possible pour gagner le camp 4. Hélas, en arrivant dans la région du camp 4, nous n'avons plus rien reconnu du tout. Il faisait un brouillard à couper au couteau. Nous avons erré absolument toute la journée en marchant dans une neige profonde, en enfonçant jusqu'au ventre pratiquement. Nous nous relayons tous les 30 mètres pour faire la trace. Et en désespoir de cause, la nuit arrivant, nous avons recherché quelque chose qui pût nous abriter pour la nuit. Nous avons trouvé une grande crevasse qui paraissait sympathique. Lachenal est allé voir cette crevasse. Tout d'un coup, il a disparu. Il est tombé. Nous sommes allés pour lui porter secours. Et du fond, nous avons entendu une petite voix qui nous disait « Écoutez, voilà une petite crevasse qui nous conviendrait fort bien pour la nuit. Venez, descendez. » Nous sommes descendus par une espèce de boyau. Et nous avons trouvé un endroit très exigu, mais quand même bien protégé du vent. Nous sommes enfuis tous les quatre dans cet endroit et nous sommes apprêtés à passer la nuit. Une nuit terrible, comme vous pouvez le supposer, puisque j'avais mes mains gelées, mes pieds gelés. Mon camarade Lachenal avait les pieds gelés. Terret était aveugle, il avait l'ophtalmie des neiges. Rebuffa était également aveugle. Et enfin, il faisait un froid épouvantable dans cette tourmente.
Quels étaient vos moyens de protection contre le gel à ce moment-là? Est-ce que vous aviez récupéré au camp 5 des gants supplémentaires, des vêtements supplémentaires?
Non, nous avions récupéré le maximum de matériel, mais nous-mêmes, nous étions déjà très fortement équipés. Nous avions des vestes en duvet et en nylon, des anoraks, nous avions des survêtements, enfin, nous étions déjà bien équipés. Au soulier, nous avions des guêtres qui tiennent très chaud. Nous étions, enfin, vraiment... Tout ce qu'il y a de mieux dans l'équipement moderne, nous l'avions. Mais malgré tout, il faisait des froids tels dans cette crevasse que nos membres ont continué à se geler. Et au matin, lorsque nous avons pu sortir de la crevasse, nous avons cherché nos chaussures que nous avions enlevées pour pas favoriser le gel de nos membres. Nous avons cherché dans le fond de cette crevasse tous nos vêtements, toutes nos chaussures, les appareils photographiques ou la caméra. Et... surtout, c'était les chaussures qui nous inquiétaient, car nous ne pouvions pas descendre, rejoindre le camp 2 sans nos chaussures. Et j'ai dû personnellement chercher, pieds nus, dans le fond de ce trou, à coups de piolet, pendant une heure, les chaussures de Lachenal et les miennes, qui étaient restées dans la neige, que je n'arrivais pas à trouver. Alors nous sommes sortis à grand-peine de cette crevasse, et au matin, c'est-à-dire le 5 au matin, nous nous trouvions tous les quatre réunis au bord de la crevasse, par un temps radieux, le temps s'était remis. Mais la situation était la suivante. Terret était absolument aveugle, il n'y voyait absolument rien. Rebuffa n'y voyait absolument rien. Lachenal avait les pieds gelés. Moi-même, j'avais les pieds et les mains gelés. Je n'arrivais pas à mettre mes chaussures, et personne ne pouvait me les mettre, car il y en avait deux qui étaient aveugles et qui ne pouvaient pas venir vers moi. Lachenal n'arrivait pas à s'approcher lui-même parce qu'il avait les pieds gelés. Enfin, nous sentions que c'était la fin. Nous avons crié, et tout d'un coup... Nous avons vu notre camarade Schatz qui a montré son nez de derrière une arête. C'était le camp 4 qui était à 200 mètres de l'endroit où nous avions passé la nuit. Et il est venu rapidement à notre secours. Nous avons senti à ce moment-là que nous étions sauvés. Nous avons fait des massages toute la nuit. Et là, je dois vraiment rendre hommage à l'esprit de camaraderie qui régnait chez nous. Terret a passé sa nuit. Hein, au lieu de se faire des massages à lui-même pour s'éviter de geler, il a passé sa nuit à me faire des massages à mes pieds et à nos mains. Enfin, tout le monde a été extrêmement chic. On s'est tous distribué le travail. Malheureusement, ce n'était pas suffisant. Et le lendemain, le 5, alors que lorsque Schatz est venu, en somme, nous sauver, qui nous a embrassés pour cette victoire que nous avions, en somme, chèrement payée, il nous a tout de suite dit, il faut descendre immédiatement pour voir le chirurgien, le docteur Oudot, qui était resté au camp 2. Et c'est là que commence la descente par un temps radieux. Mais quelle descente! Car je fus attaché avec deux sherpas. J'avais les pieds gelés, donc je ne sentais pas, je faisais des chutes pour rien, enfin pour des simples glissades, mais qui s'avéraient très dangereuses dans ces pentes. Et nous avons tâché de gagner aussi rapidement que possible le camp 2. Au lieu d'y mettre 4 ou 5 heures, nous avons mis toute la journée. Car avec toutes ces chutes, avec la grande quantité de neige qui était tombée, cette descente fut pour nous extrêmement pénible.
Si.
En arrivant, attendez, je vais vous raconter aussi quelque chose qui nous est arrivé. En passant à hauteur du camp 3, il y avait une grande quantité de neige, comme je vous disais. Nous avons déclenché ce qu'on appelle une plaque avant. Une grande plaque de neige est partie, a enlevé les deux sherpas qui me précédaient sur la corde, et moi-même, j'ai dévalé une chute de sérac. Je me suis vu les pieds en l'air, enfin, j'ai cru une fois de plus que j'allais mourir, et je me suis retrouvé dans une sorte d'écoutille de glace de 30 mètres de long environ. La corde m'a bloqué brusquement à 15 mètres, me suspendant par les jambes, et j'ai senti encore une fois que j'étais sauvé.
Mais il est une autre manière de voyager, moins héroïque, disons-le, c'est celle des reporters, et en particulier des reporters de la radiodiffusion. L'un d'eux, nous allons le suivre pendant quelques-unes de ses émissions du Journal des Voyages, au cours d'un voyage qu'il a accompli récemment et que, comme chaque fois qu'il part, il a accompli avec cet instrument, cet adjoint qui lui paraît indispensable, un magnétophone et un opérateur. Ce qu'il rapporte de son voyage, ce sont donc avant tout des documents sonores, des documents musicaux, des bruits pris dans la rue, au hasard des rencontres. Ce reporter, qui a parcouru déjà, peut-être on peut dire, le tour du monde, la Chine, la Suède, la Scandinavie, l'Amérique du Sud, c'est Samy Simon. Suivons-le ce soir, pour la première fois, dans un pays dont je ne vous dis pas le nom, puisqu'aussi bien, j'imagine que vous allez le deviner simplement à sa musique.
Beau s'y attendre et l'avoir admiré 100 fois en carte postale ou au cinéma, avoir lu 100 descriptions et se raidir et jouer les blasés, c'est tout de même avec un certain choc à la poitrine que l'on se trouve tout à coup transporté au centre de ce stupéfiant chef-d'œuvre, la baie de Guanabara. Guanabara, du nom que les Indiens, ces poètes, lui ont donné, et qui veut dire le sein de la mer. On vient durant des jours de naviguer entre ciel et eau, on n'a pas vu la terre depuis Dakar, et on commence à trouver tout cela un peu monotone. Et puis on glisse entre les pointes rocheuses d'un étroit goulet, et alors, tout de suite, la féerie commence. Sur un lac aux eaux limpides et d'un bleu profond, des centaines d'îles vont surgir, si vertes, si étrangement lisses et touffues, avec leurs coiffes de palmiers et de cocotiers, qu'on les croirait posées là, comme dans un tableau du douanier. L'œil s'égare à travers cette profusion tropicale, et déjà cependant, derrière cet écran d'îles, les plages géantes dessinent leurs franges de sable fin, jalonnées de crêtes blanchâtres, qu'on prend de loin pour des falaises. Mais quelques brasses encore, et ces cubes s'allongent, grandissent, et ressemblent enfin à ce qu'ils sont, des gratte-ciels. Et derrière ce jeu de construction géant, le cirque imposant des montagnes qui cernent la ville aux trois quarts, avec leurs éminences, leurs pics acérés, leurs fines aiguilles, qui ont l'air de mordre à même le ciel bleu. Voici le massif de la Tijuca. Voici le doigt de Dieu, les deux frères, le géant couché. Voici surtout le Corcovado qui dresse au sommet de ses 700 mètres son Christ géant, illuminé la nuit, et qui indique aux navigateurs la route à suivre. Oui, que ce soit au petit jour, quand le soleil se dissimule encore derrière l'écran d'une brume laiteuse qui donne à tout ce paysage l'apparence d'un rêve, ou dans l'incendie rouge et or du couchant, ou la nuit, quand scintille tout au long de la baie comme un collier géant et que clignote et se répondent dans une sorte d'alphabet morse lumineux les innombrables lumières de la ville, c'est toujours un spectacle étonnant que l'entrée dans cette baie fameuse. Et je me souviens de notre saisissement à Jean-Louis Barrault et à moi, comme à toute la compagnie d'ailleurs, lorsque par un bel après-midi de mai dernier, qui là-bas était un bel après-midi d'hiver, de la passerelle du Florida qui nous amenait de France, nous découvrîmes ensemble à la fois Guanabara, Rio de Janeiro et le Brésil. Mais à peine s'est-on arraché à cet enchantement de l'arrivée et a-t-on fait quelques centaines de mètres sur le continent, qu'une autre surprise au moins égale vous attend. La découverte de Rio de Janeiro proprement dit. La seule ville du monde, a dit Paul Claudel, qui n'ait pas chassé la nature et qui a l'air d'avoir poussé au même rythme, avec la même sève, la même profusion, le même prodigieux foisonnement que la forêt vierge qui l'entoure.
Imaginez une sorte de New York qu'on aurait installé en pleine nature tropicale, à deux pas de la forêt vierge. Tout ici est sous le double signe de la nature sauvage et du modernisme le plus audacieux. Les immeubles à la Le Corbusier foisonnent, les ascenseurs montent à des allures vertigineuses au 25e étage et vous découvrez de la terrasse un paysage de cocotiers à droite et à gauche l'immense géométrie verticale des gratte-ciels et tout en bas de minuscules joujoux qui sont des paccards ou des buicks par centaines à la queue leu-leu et d'où monte un vacarme assourdissant de klaxons. La circulation à Rio est d'ailleurs quelque chose d'ahurissant et il faut des nerfs solides pour résister à ce flot ininterrompu. Les cariocas, c'est-à-dire les habitants de Rio, ont coutume de dire plaisamment « Traverser l'Atlantique n'est rien, le difficile, c'est de traverser l'avenida Rio Branco, c'est la grande artère centrale de la ville. » Cette ville champignon est en effet étranglée entre la montagne et la mer, et elle a dû s'étendre en profonde longueur, et sur près de 30 km, les buildings s'étagent le long des plages. Copacabana, la canne brésilienne, est à 15 km du centre de Rio. Par contre, en profondeur, vous trouvez la forêt vierge et les singes, les perroquets, les essences précieuses, à quelques tours de roue du centre de la ville. Et à chaque coin de rue, une musique vous attend, une samba, ou un fevro, ou un baio dans le genre tenu de celui-ci. L'aérodrome Santos Dumont, d'où s'envole un avion toutes les 5 minutes, est installé en plein cœur de la ville, sur la baie. C'est une bande de terre qui a été gagnée sur la mer. D'ailleurs, à Rio, quand on veut faire de la place, on fait sauter les montagnes, c'est plus simple. Et il y en a quelques-unes comme cela qu'on ne retrouve plus entre deux voyages, et à la place, en 6 mois, on trouve quelques banques. Mais tout ici est inusité, cocasse, violent, pittoresque, déconcertant. Quand nous avons débarqué, la ville entière retentissait de l'explosion de pétards, de coups de feu et des lueurs inquiétantes où je voyais dans le ciel. Et déjà, nous pensions à je ne sais quelle révolution. Renseignement pris, il s'agissait d'une sorte de parade électorale, car nous sommes entrés en période d'élection présidentielle et les candidats sont légions. Mais tout se passe gentiment, rassurez-vous, avec des pétards, des jeux et des défilés carnavalesques. Ce n'est pas pour rien que les Noirs ici sont en nombre et ils ont apporté aux Blancs je ne sais quelle joie de vivre, quelle folie heureuse, quelle gentillesse de grands enfants. Mais je vous parlerai plus longuement de Rio la prochaine fois. Aujourd'hui, je voudrais seulement, pour vous donner une idée de cette fièvre, vous entraîner au Coliseum où se disputait l'autre soir un match-exhibition entre Joe Louis, ex-champion du monde, et Arturo Godoy, un Chilien naturalisé américain. Cet enregistrement a été fait malheureusement avec un matériel de fortune, le nôtre étant encore à ce moment retenu par la douane, et vous voudrez bien l'excuser. Eh bien, je pense que vous avez déjà une idée de l'enthousiasme et du dynamisme du peuple brésilien pour ses sports favoris. Étonnez-vous après cela qu'il pose des gratte-ciels en 3 mois. Je vais essayer de me frayer un passage à travers la marée humaine jusqu'au ring où Joe Louis vient d'apparaître, ainsi qu'Arturo Godoy, qui va combattre avec lui dans ce match exhibition. Le haut-parleur est en train d'annoncer je ne sais quoi en ce moment en brésilien. Je vais arriver, si je le peux, à me frayer un passage à travers la ruée de photographes, de supporters et de radio-reporters jusqu'au ring, en escaladant les cordes, si je peux y arriver. Voilà, voilà, c'est fait. Je m'approche du ring et je vais planter mon micro sous le nez de Joe Louis.
Just a word now for Paris, for French listeners, please, who know you and who are with you tonight.
Well, I want to say hello to all the people in Rio and all the people of your French listeners. I want to say I'm very happy to be in Rio and had a wonderful time while here. And the people were lovely.
Oh, thank you. Say please. Bonjour, Paris.
Thank you. Bonjour, Paris.
Thank you. Merci.
Mais si la boxe tient une grande place, comme tous les sports en général, dans la vie des cariocas, c'est sans conteste le football qui détient la suprématie. Et on peut se faire difficilement une idée en France de la passion du Brésilien pour le ballon rond. Chaque dimanche, dans toutes les villes de l'immense République fédérale, des foules énormes envahissent les stades et viennent par leurs cris et leurs exhortations soutenir le moral de leurs équipes favorites. Quelquefois même emportées par leur fougue, elles débordent sur le terrain et le match se termine dans une mêlée générale. Quand une rencontre a lieu avec une équipe étrangère, cela devient du délire car le chauvinisme est alors porté à son comble. Quand j'arrivais à Rio, c'était à la veille de la fameuse Coupe du Monde, qui était devenue l'unique sujet de conversation, et l'on aurait cherché vainement d'autres nouvelles en première page dans les journaux. 6000 ouvriers travaillaient jour et nuit à achever l'immense stade édifié à cette occasion aux portes de la ville, et que l'on montrait avec orgueil aux visiteurs, car avec ses 150 000 places assises, il devait être effectivement le plus grand stade du monde. Quand je le visitais, à quelques jours de l'inauguration, c'était encore un énorme chantier où l'on marchait à travers des monceaux de planches et de plâtras, mais au miracle, quelques jours plus tard, il était achevé, décoré, pimpant, et l'honneur national était sauf. Ce fut d'ailleurs pour moi un de mes sujets d'étonnement quotidien, pendant toute la durée de mon séjour au Brésil, que l'effarante rapidité avec laquelle on y voit s'élever, comme par génération spontanée, les ouvrages d'art et les gratte-ciels. Voici un enregistrement d'un passage d'un match qui opposait l'équipe d'Uruguay à celle du Brésil, et vous pourrez vous faire une petite idée en l'écoutant de la véritable marée humaine qui déferle à Rio chaque semaine sur les stades. Voilà une ambiance qui n'est certes pas spéciale au Brésil, car elle est aujourd'hui de tous les pays, mais elle y trouve je ne sais quel climat tropical, quelle ardeur, quelle folle exubérance que je n'avais jamais encore rencontrée en aucun lieu du monde. C'est la furia brésilienne de ce Brésil où tout est sous le signe de la démesure. Mais cette année, malheureusement pour le Brésil, et pour la quatrième fois, c'est encore l'Uruguay qui devait emporter la Coupe du Monde. Ce fut une cruelle déconvenue à Rio, une sorte de deuil national. Les gens se croisaient silencieusement dans les rues avec des mines défaites, et un silence étonnant régna pendant plusieurs jours sur la ville, cependant que loin vers le sud, dans le petit Uruguay, Montevideo, en proie à une véritable ivresse collective, célébrait follement sa victoire. Mais voici maintenant un autre aspect plus insolite encore de cette ville étonnante, où le modernisme le plus audacieux voisine avec les superstitions les plus primitives. C'est le côté brousse africaine de Rio de Janeiro et de ce peuple né du croisement des Blancs, des Indiens et des Noirs. Et les Noirs ont apporté avec eux de leur lointaine Afrique leur rythme et leurs croyances qui se sont peu à peu intégrés, amalgamés au christianisme des Blancs, ont annexé la géographie chrétienne et assimilé curieusement la Bible, l'Évangile et les figures rituelles de l'Église pour former une sorte de religion composite qui n'est pas d'ailleurs dénuée de poésie, mais assez primitive et où le profane a bien du mal à se reconnaître. Le spiritisme a encore broché sur le tout et il existe à Rio comme cela de très nombreuses sectes où l'on pratique la magie blanche et même parfois la magie noire, au su et au vu de tous en plein cœur de la ville et le plus souvent dans un but fort louable d'ailleurs puisqu'il s'agit de soigner, de guérir et d'attirer sur soi et sur ses frères la protection des esprits, des saints et des éléments. Saint Georges et Saint Michel sont en général les deux saints le plus en faveur et on leur dresse des autels devant lesquels la foule des fidèles vient communier et se répandre en action de grâce. Voici un curieux passage de l'une de ces séances que j'ai pu enregistrer au prix de quelques difficultés et grâce surtout à la complicité de l'un des assistants du grand prêtre en dissimulant mon micro, que le ciel me pardonne ce geste sacrilège, dans les plis de la robe d'une statue équestre et polychrome de Saint Georges.
Nous sommes en ce moment au premier étage d'un immeuble banal de Rio, dans une grande salle tout en longueur, dont la moitié est réservée aux fidèles, assis sagement sur des bancs de bois, et dont l'autre moitié est garnie de médiums, hommes et femmes, revêtus de longues tuniques blanches, les femmes porte même le pantalon long, et elles fument presque toutes de longs cigares dont elles rejettent la fumée au visage de leurs voisines pour leur communiquer le souffle de l'esprit. Au fond, un grand hôtel rouge et or, illuminé au néon, s'il vous plaît, et dans des niches, Saint-Georges à cheval, Saint-Michel, Gabriel, le Christ, et aussi une sirène couchée dans une coquille d'huître, l'étoile de David, etc. Les médiums s'avancent vers l'autel, se prosternent face contre terre, et les hymnes se succèdent, conduits par le grand prêtre, lequel, me dit-on, est dans le civil capitaine de gendarmerie en retraite. L'exaltation va monter de plus en plus chez les médiums et certains, visités par l'esprit invoqué, se sentent déjà gagnés par la transe. Dans un instant, agités de tremblements convulsifs, les cheveux dressés sur la tête, ils pousseront des cris perçants et tourneront comme des toupies, les yeux révulsés, jusqu'au moment où, épuisés, ils tomberont à terre. Extraordinaire peut-être dans ce spectacle qui rappelle les cérémonies initiatiques ou les danses rituelles africaines, c'est qu'il y participe autant de blancs que de noirs. Cette jeune femme, par exemple, qui pousse des cris stridents et qui avance à petits pas saccadés, les bras en croix et les yeux fixes, est caissière dans un grand magasin. Et cet énorme gaillard, à la panse rebondie et à la mine réjouie de paysan normand, tient boutique d'instruments d'optique dans l'avenue d'Ario Branco. Il y a aussi la vieille dame à chapeau à fleurs et à la face ridée comme une vieille pomme et aux dents en or, qui ressemble à un personnage de Dickens et qui sent son Fleet Street du lieu. Enfin, toute une humanité bizarre et refoulée et qui vient là un peu comme on va chez le sorcier ou le rebouteux. Puis, de nouveau, les chants et les hymnes vont reprendre et cela durera pendant des heures. On m'explique qu'il s'agit là surtout de séances d'entraînement pour les médiums, après lesquelles ils sont en état de soigner les malades et par des passes magnétiques de leur dispenser leur fluide. Et enfin, tout se terminera par des danses demi-rituelles, demi-profanes.
Libre à vous de me condamner ou de m'absoudre. La prochaine fois, je tenterai une prospection à travers le folklore brésilien, un des plus variés qui soit au monde, et où de l'Amazone au Rio Grande do Sul, on trouve toute la gamme des chants indiens et noirs, comme une réplique musicale à l'éblouissante palette des papillons et des oiseaux qui peuplent la grande sylve brésilienne.
Dinheiro, curimã, curimã, e curimã, lambaio, curimã, e curimã, lambaio, curimã, curimã, e curimã, lambaio, curimã, e curimã, lambaio, curimã. Vamos chamar o vento, vamos chamar o vento.
Samy Simon est allé au Brésil, Samy Simon est content d'être allé au Brésil, il trouve qu'il a voyagé, il a raison bien entendu, mais d'autres qui ne sont pas nés d'hier ont toujours pensé que voyager, ce n'était pas aller d'un point à un autre de la terre, fût-il très éloigné. D'autres qui ne sont pas nés d'hier ont toujours pensé que voyager, c'était quitter la terre. On connaît les reportages d'Homère, de Virgile, de Dante, de Daniel Defoe, un peu plus tard, de Jules Verne, de Giraudoux, d'Henri Michaud. Nous allions oublier Cyrano de Bergerac, qui avant d'avoir eu la mauvaise fortune de devenir un héros de théâtre, fut un écrivain et un inventeur de génie. Il fit, entre 1619 et 1655, plusieurs voyages dans la Lune. Il les préparait lui-même au XVIIe siècle. En effet, on n'allait pas dans la Lune aussi facilement que demain. Sa première tentative fut un échec. Voici comment il l'a décrit. « J'avais attaché autour de moi quantité de fioles pleines de rosée sur lesquelles le soleil dardait ses rayons si violemment que la chaleur qui les attirait comme elle fait les plus grosses nuées m'éleva si haut qu'enfin je me trouvais au-dessus de la moyenne région. » Mais comme cette attraction me faisait monter avec trop de rapidité et qu'au lieu de m'approcher de la lune comme je le prétendais, elle me paraissait plus éloignée qu'à mon partement, je cassai plusieurs de mes fioles jusqu'à ce que je sentis que ma pesanteur surmontait l'attraction et que je redescendais vers la terre. Heureusement, l'atterrissage de Cyrano se passa sans histoire et il put quelques années plus tard faire une nouvelle tentative qu'il décrit ainsi. J'avais fait une machine que je m'imaginais capable de m'élever autant que je voudrais, en sorte que rien de tout ce que j'y croyais nécessaire ni manquant, je m'assis dedans et me précipitai en l'air du haut d'une roche. Mais parce que je n'avais pas pris bien mes mesures, je culbutai rudement dans la vallée. Tout froissé néanmoins que j'étais, je m'en retournai dans ma chambre sans perdre courage et je pris de la moelle de bœuf, dont je moignis tout le corps car j'étais tout meurtri depuis la tête jusqu'aux pieds. Et après m'être fortifié le cœur d'une bouteille d'essence cordiale, je m'en retournai chercher ma machine. Mais je ne la trouvai point, car certains soldats, l'ayant rencontrée par hasard, l'avaient rapportée au fort, où, après plusieurs explications de ce que ce pouvait être, quelques-uns dirent qu'il fallait attacher quantité de fusées volantes, pour ce que, leur rapidité les ayant enlevées bien haut et le ressort agitant ses grandes ailes, il n'y aurait personne qui ne prît cette machine pour un dragon de feu. Je la cherchais longtemps cependant, mais enfin je la trouvai au milieu de la place de Québec. Comme on y mettait le feu, la douleur de rencontrer l'œuvre de mes mains en un si grand péril me transporta tellement que je courus saisir le bras du soldat qui allumait le feu, je lui arrachai sa mèche et me jetai tout furieux dans ma machine pour briser l'artifice dont elle était environnée. Mais j'arrivai trop tard, car à peine y eus-je les deux pieds que me voilà enlevé dans la nue. L'horreur dont je fus consterné ne renversa point tellement les facultés de mon âme que je ne me sois souvenu depuis de tout ce qui m'arriva en cet instant. Car dès que la flamme eut dévoré un rang de fusées qu'on avait disposé 6 à 6 par le moyen d'une amorce qui bordait chaque demi-douzaine, un autre étage s'embrasait, puis un autre, en sorte que le salpêtre prenant feu éloignait le péril en le croissant. La matière, toutefois, étant usée, fit que l'artifice manqua, et lorsque je ne songeais plus qu'à laisser ma tête sur celle de quelques montagnes, je sentis, sans que je ne remuasse aucunement, mon élévation continuer, et ma machine prenant congé de moi, je la vis retomber vers la terre. Cette aventure extraordinaire me gonfla le cœur d'une joie si peu commune que, ravi de me voir délivré d'un danger assuré, j'eus l'impudence de philosopher là-dessus. Comme donc je cherchais des yeux et de la pensée ce qui pouvait en être la cause, j'aperçus ma chair boursouflée et grasse encore de la moelle dont je m'étais enduit pour les meurtrissures de mon trébuchement. Je connus qu'étant alors en décours, et la lune pendant ce quartier ayant accoutumé de sucer la moelle des animaux, elle buvait celle dont je m'étais enduit avec d'autant plus de force que son globe était plus proche de moi et que l'interposition des nuées n'en affaiblissait point la vigueur. Voilà. A-t-on parlé de Cyrano de Bergerac lors du dernier congrès d'astronautique? Monsieur Ananoff, qui a présidé ce congrès et qui depuis 22 ans se consacre à l'étude de la science astronautique, va peut-être répondre à cette question qu'il juge sans doute stupide.
Nullement stupide. Seulement, je dois vous avouer que si effectivement nous considérons tous les astronautes, Cyrano de Bergerac comme étant l'un des précurseurs de l'astronautique, parce que précisément, il utilise l'un des procédés, l'un des moyens qui nous permettra d'atteindre très bientôt, je pense, soit la surface de la Lune, soit les autres planètes. Notre préoccupation à ce congrès technique a été surtout d'étudier les différents problèmes sous leur angle pratique. Et c'est pour ça que nous avons, hélas, je dois l'avouer, négligé un peu Cyrano.
Avez-vous au moins parlé de Jules Verne?
Hélas, non plus. Et pourtant, je dois vous avouer que c'est grâce à Jules Verne que se sont bâties toutes les bases de l'astronautique moderne. C'est sur son roman que se sont fondées toutes les théories actuelles. En effet, vers la fin du siècle dernier, je crois très exactement vers 1875, lorsqu'il a publié ses deux romans, De la Terre, la Lune et Autour de la Lune, qui ont fait grand bruit, on s'était demandé, étant donné la logique du texte et les arguments scientifiques qu'ils mettaient en œuvre, pourquoi le voyage n'était pas encore réalisé, tellement c'était plausible. Et le monde scientifique s'en est inquiété même, et ils ont démoli, d'un bout à l'autre, le merveilleux voyage de Jules Verne. Mais comme il fallait absolument bâtir quelque chose à la place, ils ont établi les lois sur lesquelles repose le problème astronautique. Voici à peu près sur quelle base repose le problème actuel. Jules Verne avait imaginé un canon. C'était donc l'utilisation de la force initiale. Or, il est évident que nous sommes plongés dans une atmosphère extrêmement dense et que la vitesse considérable qui devait animer l'obus aurait été impossible d'être atteinte dans notre atmosphère. Il se serait consumé. Enfin, comme il devait y avoir des voyageurs à l'intérieur, ils étaient au nombre de 3, si j'ai bonne mémoire, ils devaient être absolument liquéfiés sur le plancher de la cabine. Ce canon, par ailleurs, devait avoir quelque 300 mètres de long et creusé verticalement à même la surface du sol. Bref, il y avait là des impossibilités techniques et pratiques insurmontables. Et on a demandé au monde scientifique que fallait-il donc pour le réaliser. Eh bien, la première des choses, ne jamais utiliser la vitesse initiale. Il fallait l'acquérir graduellement, tout doucement, dans les couches basses de notre atmosphère pour éviter un échauffement, toujours néfaste, et enfin pour sauvegarder la vie des passagers, car en définitive, le voyage était fait pour des êtres humains. Il fallait donc songer à eux.
C'est un retour à Cyrano.
Évidemment. Là, on revenait à nouveau à Cyrano, et c'est Jules Verne, en quelque sorte, qui a redonné l'élan à l'ancien principe utilisé par Cyrano. Et alors, le principe de la fusée, je ne sais même si Cyrano y a pensé lui-même, est un principe merveilleux, et c'est le seul qui nous permettra un jour d'atteindre les planètes, parce qu'il permet de fonctionner dans l'espace vide d'air, parce qu'il ne prend pas appui sur le milieu extérieur, alors que tous les autres moteurs connus, prennent leur point d'appui sur le milieu extérieur.
Mais peut-on aujourd'hui aller dans la Lune ?
Eh bien, si l'astronautique est une, comme vous avez dit tout à l'heure très justement, est une science, et est en même temps une science extrêmement complexe, elle intéresse toutes les branches du savoir humain. Notre rôle actuellement consiste à pousser jusqu'à l'extrême limite de nos connaissances dans chacun des domaines qui l'intéressent. Et c'est en somme la synthèse de toutes les connaissances acquises qui permettra de réaliser le problème astronautique. Actuellement, si vous me posez le problème actuellement, si nous connaissons le principe, si nous sommes déjà très riches par l'apport de différentes connaissances, nous ne sommes dans l'impossibilité de réaliser le voyage à la Lune pour des êtres humains, comme nous. Mais par contre, nous sommes déjà en mesure d'envoyer sur la surface de notre satellite une fusée avec une charge utile de 4 ou de 5 kilos à peine. C'est dans la limite des possibilités immédiates.
On pourrait aller dans la Lune, mais on n'y va pas. Et demain ?
Et demain, on ira dans la Lune, indiscutablement, puisque comme Flammarion l'avait dit, c'est la première étape d'un voyage à l'infini, et je veux bien le croire. On ira sur la Lune. Quels sont les intérêts qui se poseront ? Je ne les discute pas ici. Ça peut être des intérêts simplement géologiques, ou scientifiques, ou autres. Quoi qu'il en soit, on effectuera le premier voyage, et grâce au moteur nucléaire, sur le compte, au moteur atomique, si vous préférez, sur le compte énormément, qui est déjà soumis à l'expérience, et dont les travaux sont couronnés de succès. Vous dire quand on réalisera le voyage, je ne puis m'hasarder, il est assez délicat de le dire, ça peut être demain, mais sûrement après-demain.
Bien, à demain, professeur.
De la Lune, redescendons sur la Terre. À la musique céleste des sphères, je vous propose de faire succéder une autre musique, aussi mal connue chez nous d'ailleurs, encore que moins lointaine. Simplement, un enregistrement recueilli dans la forêt équatoriale, voici, ma foi, à peine un mois. Écoutez. Mystérieux instrument possède cette sonorité pleine d'ampleur, cette couleur orchestrale cependant consacrée à des thèmes simples et, soyons francs, un peu monotones. Clavecin, xylophone, guitare, ne cherchez pas, ce serait inutile. Cet instrument, nous l'avons enregistré de très près, en très gros, comme à la loupe. Ramenons-le d'abord à son niveau normal, celui d'une stridulation d'insectes ou de boîte à musique. Mon ami le technicien, qui nous regardait de l'autre côté de la glace, voulez-vous baisser le niveau ? Encore un peu ? Voilà. N'y touchez plus. Maintenant, tous les coloniaux, tous les Africains reconnaîtront, sinon cette ritournelle, du moins l'instrument qu'il a produit. C'est une fabrication de la forêt africaine. En Aouef, on l'appelle Mbichi. Au Cameroun, Sanda. Chez les Paouins du Gabon, Sanza. Et Ngidi chez leurs voisins Mitsobo.
un petit résonateur de bois creux sur lequel les pouces du musicien font vibrer par leur extrémité libre de petites tiges de fer. 7 tiges, 7 notes au Cameroun, 10 au Gabon. Et de petites perles de verre enfilées sur les tiges de fer vibrent avec elles. Et dans toute la forêt africaine, Mbichi, Samba, Ndidi constituent l'accompagnement permanent de toutes les heures d'une vie généralement nonchalante. Il résonne dans les mains de l'oisif allongé devant sa cave, dans son fauteuil en peau d'antilope, dans celle du planton sous la véranda de l'administrateur, égale la marche des porteurs le long des sentiers et des passants dans les rues des villes. L'Afrique vous parle, en musique, par la voix grêle et pleine de charme de ses petites boîtes à musique.
Pour terminer, notre journal des voyages vous présente ce soir la première livraison de son feuilleton. L'histoire des aventuriers, des flibustiers et des boucaniers d'Amérique, d'Aix-Melun, n'est pas un roman. Ce sont plutôt les mémoires, que nous avons d'ailleurs tout lieu de tenir pour exactes, d'un homme qui, à la suite d'aventures dont il vous fera lui-même le récit au cours de ses émissions, devint, vers le milieu du XVIIe siècle, le chirurgien de l'un des plus fameux navires flibustiers de la mer des Antilles. L'historien de la flibuste, Aix-Melun, vous parle.
Les voyageurs aiment naturellement à parler de ce qui leur est arrivé, surtout lorsqu'ils sont hors de danger et qu'ils croient que leurs aventures méritent d'être sues. Je ne veux donc point dissimuler que je prends quelque plaisir à raconter ce qui s'est passé dans mon voyage. Peut-être même ne sera-t-on pas fâché de l'apprendre. Je tâcherai du moins d'en rendre la relation aussi agréable qu'elle est vraie. Nous embarquâmes le 2 mai 1666. Et le même jour, après avoir levé l'ancre de la rade du Havre de Grâce, nous allâmes mouiller à la Hogue sous le cap de Barfleur. Nous étions dans le vaisseau Saint-Jean, qui appartenait à messieurs de la Compagnie Occidentale, commandé par le capitaine Vincent Tillet. Nous allâmes joindre le chevalier de Sourdis, qui commandait pour le roi le navire dit l'Hermine, monté de 36 pièces de canon, avec ordre d'escorter plusieurs vaisseaux de la Compagnie qui allaient en divers endroits, les uns au Sénégal, en Afrique et aux Antilles de l'Amérique, les autres vers la Terre-Neuve. Tous ces vaisseaux s'étaient joints aux nôtres de peur d'être attaqués par 4 frégates anglaises qu'on avait vues croiser peu de jours auparavant. Peu de jours après, nous passâmes le Raz de Fontenon, que l'on trouve sortir de la Manche, et que les Français ont appelé ainsi du mot flamand « Raz », qui signifie une chose d'une grande vitesse. Le Raz de Fontenon est fort périlleux, parce que les courants y traversent un grand nombre de rochers qui ne se montrent qu'à fleur d'eau, et bien des navires s'y sont perdus. Le danger que l'on y court a donné lieu à une cérémonie particulière, que les mariniers de toutes sortes de nations pratiquent, non seulement dans cet endroit-là, mais encore lorsqu'ils passent sous les tropiques du Cancer et du Capricorne, et sous la ligne équinoxiale. Voici le rite que les Français observent. Le contremaître du vaisseau s'habille grotesquement, avec une longue robe, un bonnet sur la tête, et une fraise à son col composée de poulies et de certaines boules de bois qu'on appelle sur mer pommes de rac. Il paraît le visage noirci, tenant d'une main un grand livre de cartes marines et de l'autre un morceau de bois représentant un sabre. Le livre étant ouvert à l'endroit où la ligne est marquée, tous ceux qui sont dans le vaisseau mettent la main dessus, prêtent serment et déclarent s'ils ont passé sous cette ligne ou non. Ceux qui n'y ont jamais passé viennent s'agenouiller devant le contremaître, qui leur donne de son sabre sur le col. Après quoi, on leur jette de l'eau en abondance, et s'ils n'aiment pas mieux en être quittes moyennant quelques bouteilles de vin ou d'eau-de-vie. Ceux qui y ont déjà passé sont exempts de la peine. Personne ne peut éviter cette espèce d'initiation, non pas même le capitaine. Et si le navire qu'il monte n'y a jamais passé, il est obligé de faire quelques largesses à l'équipage, sinon les matelots s'iront le devant, qu'on appelle le galion ou la poulaine. Après que nous eûmes passé le Raz de Fontenon, une partie de la flotte nous quitta, et nous nous trouvâmes réduits à 7 vaisseaux qui faisaient la même route. En peu de jours, nous fûmes conduits par un vent favorable jusqu'au cap Finistère, où est la pointe septentrionale de l'Espagne. Il fut ainsi nommé par César, qui, après avoir conquis toutes les Espagnes et être enfin arrivé à ce cap, y borna ses conquêtes en disant qu'il était venu aux extrémités de la terre. Là, nous fûmes surpris par une furieuse tempête. Dans cette extrémité, je vis un effet sensible de ces paroles de saint Paul, que pour apprendre à prier, il faut aller sur la mer. Chacun avait recours aux prières, et je ne fus pas des derniers. La tempête dura 2 jours, Après quoi, la mer se calma, le vent devint bon, et nous poursuivîmes notre route à toute voile. Cependant, les navires qui étaient avec nous s'écartèrent tellement que nous demeurâmes seuls. Quand nous fûmes à 200 lieues des Antilles, nous rencontrâmes un vaisseau anglais contre lequel nous nous battîmes 4 heures de temps. Les boucaniers qui étaient dans notre bord voulaient l'accrocher, mais notre capitaine le défendit. Nous étions pour l'heure réduits à un demi-setier d'eau par jour. Peu de temps après, nous arrivâmes à la vue des Antilles, et la première île que nous aperçûmes fut celle de Santa Lucia. Nous voulions aller à la Martinique, mais comme nous étions trop bas et que le vent et le courant ne nous permirent pas d'y aborder, nous fîmes route vers la Guadeloupe, où nous ne pûmes arriver non plus qu'à la Martinique. Enfin, 4 jours après, nous arrivâmes à l'île Hispaniola, que les Français nomment Saint-Domingue et les Espagnols Santo Domingo, arrivée qui nous combla de joie, car il n'y avait personne de nous qui ne fût extrêmement incommodé de la soif et des fatigues de la mer. Aussitôt vint à nous un canot, où il y avait 6 hommes, qui causèrent assez d'étonnement à la plupart de nos Français qui n'étaient jamais sortis de France. Ils n'avaient pour tout habillement qu'une petite casaque de toile et un caleçon qui ne leur venait qu'à la moitié de la cuisse. Il fallait les regarder de près pour savoir si ce vêtement était de toile ou non, tant il était imbu de sang. Ils étaient basanés. Quelques-uns avaient les cheveux hérissés, d'autres noués. Tous avaient la barbe longue et portaient à leur ceinture un étui de peau de crocodile dans lequel étaient 4 couteaux avec une baïonnette. Nous sûmes que c'étaient des boucaniers. J'en ferai dans la suite une description particulière parce que je l'ai été moi-même. Ceux-ci nous apportèrent 3 sangliers, qui suffirent à tout ce que nous étions de monde sur le vaisseau, et en récompense, nous les régalâmes d'eau-de-vie. Les habitants vinrent aussi à notre bord et nous présentèrent toutes sortes de fruits pour nous rafraîchir. Notre chaloupe alla à terre, quérir de l'eau. Tout cela nous remit tellement que, dès le soir même, nous cessâmes de faire des réflexions sur les incommodités de la faim et de la soif que nous avions souffertes sur la route. Le lendemain matin, à la pointe du jour, nous fîmes voile pour l'île de la Tortue, dont nous n'étions qu'à 7 lieues. Nous y mouillâmes l'ancre sur le midi, 7e jour de juillet 1666. Dès que nous eûmes salué le fort avec 7 coups de canon et que notre navire fut en parage, nous descendîmes à terre et allâmes saluer Monsieur le gouverneur qui nous attendait au bord de la mer avec les principaux habitants de l'île. On nous donna 2 jours pour nous rafraîchir et nous promener dans l'île, en attendant qu'on eût déterminé à quoi on nous emploierait. Le temps qu'on nous avait donné étant expiré, on nous exposa en vente aux habitants. Nous fûmes vendus, chacun 30 écus, que l'on payait à la compagnie. Elle nous obligeait à servir 3 ans pour cette somme, et pendant ce temps-là, nos maîtres pouvaient disposer de nous à leur gré et nous employer à ce qu'ils voulaient. Je ne dis rien de ce qui a donné lieu à mon embarquement, suivi d'un si fâcheux esclavage. Ce serait un discours hors de propos. L'île de la Tortue, ainsi nommée parce qu'elle a la figure d'une tortue, est située sous le 20e degré, 30 à 40 minutes, au nord de la ligne équinoxiale, et peut avoir 16 lieues de tour. Elle n'est accessible que du côté du midi, par un canal large de 2 lieues qui la sépare de l'île de Saint-Domingue, où elle a un assez bon port. Il est surprenant de voir combien de fois l'île de la Tortue a été reprise et reperdue. Tantôt occupés par les Espagnols, tantôt par les Français, qui enfin en sont demeurés les maîtres. Les aventuriers ont trop de part dans toutes ces différentes expéditions et dans l'établissement de la colonie dont cette île est aujourd'hui peuplée, pour n'en pas faire l'histoire sans interruption. Je crois que le récit n'en sera pas désagréable.
Pierre Desgros
et Pierre Ichac
vous ont présenté dans ce premier numéro du Journal des Voyages
La conquête de l'Annapurna avec Maurice Herzog,
À la découverte de Rio de Janeiro avec Samy Simon,
Voyage dans la Lune avec Cyrano de Bergerac et Alexandre Ananoff,
Dans la forêt équatoriale avec les pianos de poche de l'Afrique centrale française,
et au XVIIe siècle, chez les aventuriers, les boucaniers et les flibustiers d'Amérique, avec Alexandre Olivier, ex-Melun.
Texte lu par André Var,
collaboration artistique Jean Chouquet et Denise Glaser. Thank you.
L'émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 21 octobre 1950. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.